Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand entretien.
Il est 8h13, on vous avait dit 8h13, c'est 8h13, et c'est Luca De Meo, le directeur général de Renault, qui est notre invité ce matin. Vous revenez tout juste de Londres, où vous avez vendu votre nouveau mariage avec Nissan et Mitsubishi. Bon, c'est bien, parce que ça faisait quand même des années que c'est un couple qui ne se parlait plus. Un remariage, on va voir si ça peut fonctionner. Est-ce que vous allez faire plus de choses, d'un point de vue concret, industriel, que vous en avez fait jusqu'à présent avec Nissan et Mitsubishi?
Bon, le mariage a été quand même long, hein, parce qu'on est ensemble depuis 24 ans. Il y a eu des bas et des hauts. Et la dernière période, un peu plus compliquée, parce que le mariage était réglé par un contrat qui, de fait, n'avait pas trop d'obligations et de droits. Et comme vous le savez très bien, dans un mariage, il y a des droits et des obligations. Donc la première chose qu'il fallait discuter, c'est justement de se remettre à un niveau sur un contrat où chacun a des droits et des obligations. Donc ce que je lis dans la presse, c'est que beaucoup de fois, Renault a perdu pouvoir par rapport à Nissan.
Ah, vous aviez 43, vous avez 15 maintenant. Oui. Bon.
Mais sauf que le 43, on n'avait pas trop de droits. Alors qu'avec les 15, on a les droits qu'un actionnaire normal et vice-versa à Nissan. Donc je pense que ça va équilibrer et assainir un peu la conversation. C'est ça le but. Mais c'était pas que ça. En fait, on en a profité aussi pour rediscuter beaucoup de choses. Y compris le fait qu'on voulait réactiver des projets importants dans le monde. Et ce qu'on a annoncé hier, en fait, c'est quelque chose qui a une dimension d'un point de vue business et économique qui est beaucoup plus importante de ce qu'on a pu faire dans les dernières années. Donc ça va réactiver la relation. Et le troisième élément de cette fusée, c'est étage de cette fusée, c'est que en gros, on s'est racheté aussi un peu de liberté stratégique pour pouvoir faire des choses dans notre coin. Donc, on n'est pas obligé de rester à la maison.
C'est une union libre.
Oui, c'est une union un peu plus. Disons, au moins, on peut sortir de la maison, aller voir les copains.
Et ouais. Si on a envie. Et vous savez, on essaie toujours de savoir qui a gagné, quand même, même dans un divorce. Et ici, sur cette antenne, depuis ce matin, on a une liste, quand même, d'invités qui pensent que, dans ce nouveau mariage, c'est plutôt Nissan qui a gagné que Renault. Avant que vous répondiez, écoutez, Jean-Marc Daniel était avec nous ce matin.
Les industriels ont inventé un nouveau mot pour dire capitulation en race campagne. Ça s'appelle rééquilibrage. Non, c'est un fiasco complet.
Vous croyez?
Ah oui, oui. Je pense que c'est une victoire totale des Japonais. Ça va durer 15 ans officiellement. Et vous savez, dans Molière, 15 ans de mariage épuise la parole. Et donc, et depuis longtemps, nous nous sommes tout dit, les 15 ans ne tiendront même pas. Des mémos dans toute cette affaire, il fait au mieux. Bon. Je salue ce qu'il fait, mais je dis, c'est voué à l'échec.
C'est dur, hein, c'est comme, dur. Comme critique.
De mais il dit quand même que vous faites au mieux, ce qui est...
Ah oui.
C'est sympa gentil. Quand même.
Non, mais bon, je connais pas ce monsieur, mais il fait le professeur.
C'est un professeur.
Moi, il fait le professeur. Moi, je fais les choses dans la maison. Et c'est, en fait, c'est le temps qui va donner raison à l'un à l'autre, parce qu'on a bien l'intention avec Nissan et Mitsubishi de faire des choses. D'ailleurs, par exemple, ce nouveau contrat va permettre d'amener des voitures de Nissan et Mitsubishi produite en France, dans les usines de Renault. Donc ça, c'est du concret.
Ouais, pareil en Inde aussi, pareil en Amérique du Sud.
Etc.
Vous allez partager les moyens de production. Mais est-ce que la vraie question...
Comme on le faisait plus depuis longtemps.
C'est vrai. Est-ce que la vraie question, c'est est-ce que c'est sincère de la part de vos partenaires? Parce qu'il y a eu... C'est pas, vous n'étiez pas là, mais il y a eu des années, vous l'avez dit, de malentendus, de mensonges, de défiance. Oui. Est-ce que vous êtes là depuis... Maintenant quoi? Presque 2 ans maintenant?
Non, 2 ans et demi.
Est-ce que vous êtes, au fond de vous, vous dites j'ai rétabli la confiance avec eux?
Écoutez, moi, un avantage que j'ai toujours eu, c'est que j'ai pas vécu des situations de l'alliance. Je viens avec une perspective assez ouverte et j'ai toujours regardé le thème et l'alliance comme une opportunité pour Renault et pour le groupe et aussi d'un point de vue complètement business. Donc je suis sans émotion sur l'histoire. Je pense que ça a aidé dans la conversation parce que je me suis concentré sur les choses concrètes. Et au passage, après 6-8 mois de négociations avec nos amis de Nissan et Mitsubishi, je pense qu'on a établi avec certaines personnes une relation de confiance, de business, sans faire des choses qui n'ont rien à voir avec la vie des entreprises. Mmh. Donc on n'est pas naïf. je suis pas naïf. Je sais qu'il y a eu des tensions dans le passé, mais on essaye de remettre toute l'activité avec un but qui est de faire des résultats, de faire des choses ensemble. Quand ça a du sens, quand ça a pas de sens, on le fait pas.
Il y a quand même un défi émotionnel. Vous dites c'est sans émotion, c'est business, c'est un projet industriel. Je suis claire, mais derrière il y a quand même des gens qui n'arrivaient plus à travailler ensemble, qui vont devoir à nouveau retravailler ensemble, reconstruire une relation parfois qui a été difficile. C'est un défi managérial quand même pour vous.
Ah ouais, ça l'est certainement. Sauf que l'idée à la base il y a quelques années c'était de la fusion entre les deux entreprises, donc aussi l'organisation, les process étaient adaptés à ça, et ça va demander un re-engineering de la relation, des connexions entre les deux entreprises. Mais comme on a une dizaine de projets structurants, marché, produits, techno, etc., je pense qu'on va construire la relation sur ces projets, c'est-à-dire que comme s'il y avait deux édifices où on construit à chaque étage des ponts. Mais je pense que c'est possible. C'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose, parce que il y a un intérêt commun à le faire. Tous les projets sur lesquels on s'est mis d'accord ont un bénéfice pour Nissan, pour Mitsubishi et aussi pour Renault. C'est ça qui va parler.
On va prendre les différents projets ensemble si vous voulez bien, mais juste une question sur cette alliance. Même si on additionne les ventes de véhicules des trois groupes, vous n'êtes plus que le quatrième groupe mondial. Vous étiez premier il y a quelques années. Et vous, Renault, vous vendez 2 millions de véhicules. Est-ce qu'on peut survivre dans ce monde de brut où il y a des gens qui vendent 10 millions de véhicules, où il y a des gens comme Tesla qui vendent déjà plus de véhicules que vous? Est-ce qu'on peut survivre quand on vend 2 millions de voitures? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'économie d'échelle?
Écoutez, déjà Tesla ne vend pas plus de voitures que nous.
1,4 million sur l'électrique, 1,3 pour vous.
Donc ça ne vend pas plus de voitures que nous, mais ça pourra le faire. Mais regardez, aujourd'hui, l'année dernière, on était plus ou moins à 2 millions. C'est le creux de la vague. Renault s'est préparé ces dernières deux ans et demi à lancer une gamme de produits comme on l'a jamais eu. D'ici 2025, on va lancer 25 nouveaux produits. Donc j'ai tendance à penser que Renault va remonter la pente. Cela dit, on gagne plus d'argent en vendant 2 millions de voitures de ce qu'on gagnait quand on en vendait plus de 3 millions. Point numéro un. Donc, on a fait une stratégie qui est plus orientée aux valeurs, à chercher la génération du cash, la profitabilité. Ça marche plutôt bien. Mmh. Et maintenant, on va profiter, une fois qu'on a, disons, on aura le produit de façon saine, structurelle, je pense que ça va s'améliorer. Et il y a une chose à dire, c'est que l'alliance, en gros, et le contrat qu'on a fait, sert justement à être partie d'un écosystème qui nous permettra de faire de l'échelle et des synergies. Et concrète. Donc, nous, on peut faire en même temps de la synergie et de l'échelle parce que on est numéro 3, 4 au monde, etc. Mais on se construit une identité de Renault, on remet la techno au centre du village, on remet la France au centre, on pousse la France sur la partie la plus haute de la chaîne de la valeur. C'est ça la stratégie, ça, pour l'instant, ça a l'air de marcher.
Le volume, ça n'a plus aucun intérêt. Compter le nombre de voitures vendues, c'est même sur le plan mondial, c'est pas ça qu'il faut regarder comme indicateur.
Non, bien sûr, parce qu'on est... On est dans une industrie où il y a beaucoup de capital qui est mis dans les projets. Mmh. Donc évidemment, le volume sert. Mais je répète, on a quand même 60, ça va être 90% de plateformes qui sont partagées avec Nissan et Mitsubishi, avec les composants. On achète 90 milliards de composants tous ensemble. Donc le système, il est là. La chose que les gens ne veulent pas reconnaître, les analystes, c'est qu'en fait, il y a 24 ans, on a créé un système avec d'autres entreprises qui règle le thème de l'échelle. Des autres, ils sont arrivés plus tard. Mmh. Donc ça, c'est un thème d'il y a 20 ans, il faut seulement le faire marcher. Et c'est exactement le sens du contrat, du nouveau contrat de mariage qu'on a signé.
Bon, la pépite, tout ce que tout le monde regarde avec attention, c'est Ampère, la filiale électrique. Il manque encore quelques détails. Elle intéresse tout le monde. Tout le monde veut rentrer dans Ampère. On en est où?
Moi, je pense que le projet a beaucoup de traction. Évidemment, on en est dans une phase, on est dans la cuisine pour essayer de construire ce potentiel IPO. Il y a beaucoup de processus qu'il faut faire.
Vous voulez l'IPO, c'est-à-dire vous voulez l'introduire en bourse? Ça vaut combien, Ampère?
C'est pas moi qui définit le
prix. 10 milliards, 15 milliards?
C'est le marché qui va définir le prix et les spécialistes. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de donner suffisamment de substance au projet pour que ça intéresse et ce soit valorisé par la bourse.
Alors justement, qui va être dans le projet? Nissan dit jusqu'à 15%, Mitsubishi aussi peut-être
Oui, ils ont dit, ça c'était une belle surprise d'hier, ils ont dit qu'ils étaient intéressés, parce qu'ils sont aussi intéressés à utiliser Ampère comme plateforme pour produire des voitures électriques, pour rester en Europe.
Et alors vous avez vu aussi que beaucoup d'analystes se disent, mais quelle va être la part des GAFAM parce que vous voulez travailler avec Qualcomm, vous voulez travailler peut-être avec Google ou Apple, on verra. Est-ce que vous n'allez pas vous faire manger par les GAFAM qui ont beaucoup plus d'argent que vous et qui ont les technologies qui vont fabriquer le cerveau de votre voiture? Et vous allez fabriquer que de la tôle et eux le cerveau?
Non, mais ça c'est une façon assez
caricaturale,
caricaturale oui. de voir les choses, parce que n'importe quelle technologie, il faut l'intégrer. Moi, je suis bien content que des entreprises comme Qualcomm aient envie d'investir dans. C'est d'ailleurs la première fois qu'une boîte de la tech va directement dedans, et on est en train de faire de la technologie de pointe en France, de développer une architecture électronique de nouvelle génération, comme pour simplifier à la Tesla qui va être dans les voitures de Renault à partir de 25-26. Et ça, je pense que c'est très très bien. Alors c'est un partenariat horizontal aux industries, plutôt que la classique relation verticale.
Mais vous connaissez du coup la critique, c'est qu'on va dire vous n'avez pas les compétences en interne, donc vous allez chercher des partenariats. Vous dites agilité, mais ça veut dire vous n'avez plus les compétences en interne.
Non, c'est le contraire en fait, parce que beaucoup de ces choses-là, d'ailleurs on est en train d'embaucher beaucoup de monde dans la partie software. On a une équipe très très forte, déjà qui était déjà là avant que j'arrive chez Renault, et justement on est en train de leur donner un projet assez important, et je pense que ça va bien vous faire comprendre que Renault c'est en fait une boîte technologique et pas une boîte traditionnelle qui assemble seulement les pièces, parce que un semi-conducteur avec le software il faut le programmer, et d'ailleurs même la dernière le dernier projet qu'on a fait avec la Mégane, vous savez que le système de navigation de la Mégane c'est considéré un des meilleurs dans le marché, c'est les gens de Renault qui l'ont fait avec Google.
Luca De Meo, comment on se fait une place entre, d'un côté, Tesla et les Chinois qui débarquent en Europe? On voit que certains grands groupes chinois envisagent même de racheter des usines en Allemagne, notamment celle de Ford, comme l'avait fait à un moment donné, d'ailleurs, Tesla aux États-Unis, racheter des usines traditionnelles. Comment on résiste à ce rouleau compresseur?
Voilà, je suis suffisamment vieux dans l'industrie pour avoir vu avant les Japonais arriver, après les Coréens, et maintenant ça va être les Chinois, et puis un jour, je ne sais pas, les Vietnamiens ou les Indiens qui vont arriver. Ça s'appelle compétition globale. Et donc, on est habitué à ça. C'est vrai qu'en ce moment, disons, les constructeurs chinois et asiatiques ont certains avantages dans le contrôle de la chaîne de la valeur, notamment sur les matières premières, les batteries pour les Chinois, et les semi-conducteurs pour d'autres. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, et là je parle un peu comme représentant des constructeurs européens, il faut vraiment qu'on crée ce que les Anglais appellent un level playing field pour faire en sorte qu'on puisse faire de la compétition
qui soit un jeu équitable.
Parce qu'il y a la compétition quand la concurrence est pure et parfaite, et puis il y a la compétition quand les États-Unis mettent 430 milliards sur la table. Là, ouais, c'est pas exactement le même jeu.
Exactement, mais le monde est en train de changer, malheureusement, de se séparer. On vient d'une époque de globalisation où on essayait de faire un monde qui était complètement plat, et maintenant il y a des bosses, mais je pense qu'il faut que la communauté européenne réagisse à ça.
Ça vous fait peur l'IRA américain là? Parce que effectivement, ils vont subventionner massivement les voitures électriques, ils vont donner des primes à l'achat de voitures américaines avec des batteries américaines. Est-ce que ça vous fait peur?
Moi, je suis j'ai jamais été un grand fan du protectionnisme comme ça, mais je pense qu'à ce moment-là, si le contexte change, il faut trouver des contre-mesures pour protéger l'industrie.
Bruno Le Maire est à Washington aujourd'hui et demain.
Ou au moins respecter le principe de réciprocité, c'est-à-dire que tu peux pas aller aussi facilement, je le connais pour expérience professionnelle en Chine, et faire ce que tu veux. Donc, au contraire, il faudrait trouver aussi les conditions pour que les gens puissent venir ici, parce que le monde change. Mais moi, j'aime pas trop le mot protectionnisme, parce que ça amène toujours à de l'inflation, ça amène toujours à un manque d'efficacité en gros.
Je sais à quel point vous aimez parler véhicules et gamme. Est-ce que sur la gamme, sur les véhicules, là, la stratégie est claire? On attend évidemment, bien sûr, de pouvoir s'acheter chacun une R5 ou une R4 électrique.
Ça va vous changer.
Oui, ça va nous changer beaucoup de nos pieds, déjà. Mais ça, vous attendez un grand succès sur la gamme, sur Renault. Là, on est clair, on a clarifié l'offre marketing.
L'or veut que vous la fassiez rêver.
Non, mais la gamme sur les produits. J'ai pas besoin que vous me parliez d'Alpine. Restons sur la R5 et la R4 électrique.
Non, mais je pense qu'on a un portfolio de marques qui est beaucoup plus clair. On a Dacia qui va faire des voitures accessibles. Peut-être on va faire des voitures un peu plus grandes sur Dacia, mais qui vont rester quand même assez accessibles. Renault va virer beaucoup vers l'électrique. Je suis en train de mettre la marque en condition d'être au moins en Europe très vite une marque 100% électrique avec toutes les défis, les difficultés qu'il y a.
Les batteries, tout ça.
Et puis sur Alpine, on va essayer de grignoter un marché qu'on n'a jamais touché comme groupe, en profitant en fait de cette discontinuité technologique qui nous permettra d'utiliser les plateformes électriques qu'on a pour faire des choses qui sont en même temps durables mais aussi émotionnelles.
En 2035, il n'y aura donc plus que des voitures électriques en Europe, en tout cas à la vente. Est-ce qu'elles seront aussi autonomes, les voitures, en 2035?
Écoutez, moi je suis convaincu du fait que le vrai changement, ça va être de voir la voiture comme on a vu dans les smartphones, c'est-à-dire toute l'histoire de la connectivité, du fait que tu peux upgrader le software, etc. Ça va changer l'expérience du client. La voiture autonome, je pense qu'elle va arriver en petits morceaux. Et donc toute la technologie qui est derrière ce segment, je pense que ça va aider à améliorer des choses comme la sécurité ou le confort. Mais je vois pas aussi facilement des voitures qui sortent sans le volant où les gens ne conduisent pas, pour différentes raisons. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir l'utopie, de voir une voiture sans un volant qui va automatiquement, parce que ça pousse tous les ingénieurs à la limite. Et c'est bien, mais ça va arriver en morceaux. Et c'est déjà en train d'arriver. Nous, on a une voiture comme l'Austral, elle a quelque chose comme 30, 32 systèmes d'assistance à la conduite.
Vous êtes venu en Austral ce matin, je crois.
Et oui, je suis venu en Renault, ça c'est évidemment...
C'est le dernier cri, le bijou technologique de la gamme.
C'est la dernière voiture qu'on a lancée qui d'ailleurs marche très bien, donc on est content.
Dernier mot, après je vous promets, on vous laisse partir avec Lada, c'est terminé. Oui, avec plaisir jusqu'à 9h et même pour rester toute la journée avec nous. Avec Lada, c'est terminé, la Russie c'est fini.
On a toujours un petit espoir un jour que les choses reviennent à normal. C'est le souhait de tout le monde, je pense, mais là on était dans les conditions de ne plus pouvoir opérer une industrie automobile. Donc c'était le bon choix, c'était dur. On a été très décisif et rapide. Et donc ça nous avait évité des dommages collatéraux, même financiers. Mais bon, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse un deuil. Mais peut-être dans 5 ans, 6 ans, les choses vont changer, j'espère.
Merci Luca De Meo, directeur général de Renault.